Merci beaucoup pour ce très bel exposé qui nous fait découvrir Gaston Chessac. Alors pour vous, c'est un peu une longue histoire, en fait, je crois, puisque vous aviez déjà, je me souviens, il y avait eu un colloque du Forca sur la statistique des psychoses.
Oui, c'est à ce moment-là.
Et je me souviens que vous aviez déjà commencé à travailler sur cet auteur.
Voilà.
Mais alors, au début de votre livre, vous faites référence à des souvenirs de votre enfance qui donnent l'idée que c'est une histoire encore plus ancienne, en fait, puisque vous faites référence à... Alors, c'était l'une des questions quand c'était posé, comment est venu cet intérêt pour Chessac. C'était une question que posait, que je transmets. Il y avait les petits coquillages que vous ramassiez, voilà, puis il y avait les choses, les restes. Alors,
voilà.
Vous gardiez les plus beaux.
Les coquillages, oui.
Et puis...
Bon, j'ai utilisé cette image, cette métaphore pour dire la difficulté, l'épreuve qu'a représenté le choix des citations, quoi. Comme quand on ramasse des coquillages et qu'on veut garder les plus beaux, on ne sait jamais lesquels, hein, on rejette les premiers, on en garde d'autres, puis après, voilà. Hein. Ouais. Et puis avec les citations de Chessac, c'est pareil, parce que c'est une telle somme infinie que... Vous lisez, vous dites, oh, celle-là, c'est encore plus démonstratif. Alors, bon, est-ce qu'elle est mieux que l'autre? Il faut toujours renoncer, en quelque sorte, hein, à faire la somme des belles citations ou des beaux coquilles.
Je pense que c'était une question que avait posée quelqu'un qui n'a pas pu venir, c'est Dominique Léveillé, mais qui avait laissé quelques questions par écrit. Et puis, il y avait aussi d'autres questions qui ont été préparées, donc par Céline Guédard. Barbara Bruyère, je vous l'ai présenté tout à l'heure, et puis Nathalie Rabulot,
très bien.
Voilà,
hein, qui est l'autre.
Qui avait.
Et par rapport au nacre, c'est vrai qu'on s'était dit aussi que finalement, vous ramassiez ce qui était les objets les plus parfaits, et que voilà, peut-être que ceux que vous aviez laissés tomber, c'est ça qu'on aurait fait quelque chose.
Ah, bah oui, sûrement. Alors, sûrement, par exemple, chez Sac, dans une lettre, parce que tout est dans la contingence pour lui. Il dit bien qu'il ne sait pas la minute d'avance qu'il va faire. Hein, il ne choisit pas, il ne peut pas parler d'un tableau ou quelque chose avant, hein, parce qu'il ne pense pas et donc il ne sait pas avant. Alors, comme il a ses correspondants du buffet, tout ça, il leur raconte beaucoup comment il produit. Il dit, oh, je vais t'expliquer, j'ai fait un géant, j'ai fait tel totem, j'ai fait tel truc, une marmite, et voilà comment je l'ai trouvé dans la forêt, etc. Je suis partie de bonheur ce matin, j'ai ramené une souche, tout ça. Et puis il continue, et puis il dit, par exemple, et alors après, je suis allée dans le fond du jardin et en pissant, j'ai vu des coquilles d'huîtres qu'on avait jetées là, etc. Et alors ces coquilles d'huîtres formidables, je les ai prises et il s'est servi des coquilles d'huîtres parce qu'elles étaient là sous ses pieds, quoi. Hein, voilà, c'était... lui, il ne cherche pas, il trouve, comme disait Picasso. Hein,
mais ce qui est étonnant, c'est que au fond, ces créations, sa création avec les objets qu'il trouve, les Nébritus, c'est ça.
Oui.
C'est doublé au fond par une écriture qui est
voilà.
qui raconte voilà. Dans l'instant même ouais. ce qu'il a trouvé, ça, ce qu'il c'est... fait. Et...
Oui, oui. Ça c'est formidable, quoi. Hein.
On a les deux niveaux en même temps.
Oui. Hein. Vous pouvez presque vous représenter l'œuvre que vous n'avez pas vue à partir de. Hein. Je vais te raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà où comment il jette la serpillière par terre. Donc il explique tout, hein, comme il est très bavard. Enfin, pas. Quel terme on a pour l'écriture? Bavard, c'est plutôt pour le langage oral. Enfin, il est très bavard pour écrire.
Prolixe,
voilà. Exactement, merci. Il raconte tout ce qui lui passe par la tête et comme. Il n'invente pas, comme il dit, il n'a pas d'imagination, donc il faut que ce soit les choses comme ça qui se présentent dans la contingence. Ce qui lui passe sous le nez, dans la rue, ce qu'il entend, ou ce qu'il lit sur le journal, n'importe quoi. Et donc, toutes ses productions, il raconte quoi, très bien comment il fait, tout ce qu'il fait. J'ai fait un truc, figure-toi, j'ai fait ça avec un bout de papier d'une boîte de cigarettes de gitane et puis avec un morceau de truc, bon, voilà, vous avez tout. Et d'ailleurs, il dit j'ai tant de choses, voilà, hein, il a tant de choses à dire. Et il dit aussi que finalement, ce qui l'intéresse d'être peintre, que la peinture, ça lui sert à pouvoir parler comme un peintre, à prendre la parole au fond, et à s'autoriser, à faire des critiques, tout quand.
Et il les adresse aussi, ces lettres. Alors, il y a la rencontre avec Dubuffet, c'était aussi posé la question comment ils avaient pu se rencontrer, parce que quand même, même s'il n'y a pas vraiment un autre constitué, ces correspondances qu'il a, alors soit avec des gens qu'il connaît, qu'il a rencontrés, ou des inconnus, ça crée quelque chose comme une
bien sûr. Oui, bien sûr. Heureusement qu'il y en a quelques-uns. Hein. Bon, sur tout ce qu'il a envoyé comme lettres, ça fait pas un grand nombre de correspondants malgré tout, mais il y a quand même des correspondants, nombreux correspondants, très sérieux. Alors, il y a sa grosse correspondance à Dubuffet, à Paulhan, qui sont des très grosses correspondances, à Raymond Queneau, à Ragon, à beaucoup d'autres personnages, plus Albert Glaise, enfin bon, énormément, et puis aussi quelques personnes de plus modestes, du milieu un petit peu artistique local, au fond les gens qui il y a des gens qui lui répondent et puis d'autres qui lui répondent pas, voilà, parce que lui au fond, à part quelques-uns qui représentent, qui ont une importance, qui sont des appuis, comme Dubuffet, Paulhan, hein, et quelques autres, Pierre Bouju, Michel Bouju, enfin un certain nombre, les autres, il écrit au petit bonheur la chance, d'ailleurs il le dit au petit bonheur la chance, il écrit des lettres.
Il gardait copie des lettres qu'il envoyait?
Non.
Donc c'est les correspondants qui ont gardé les lettres et qui après...
Voilà, ceux qui les ont gardées, parce que la grande majorité, elles ont disparu. On les mettait à la poubelle, hein. Voilà. Alors, de deux choses l'une, quoi. Les gens qui recevaient des lettres de chez Sack, ils étaient un peu étonnés. Et par exemple, un jour, il écrit à quelqu'un en lui disant « Cher ami, vous m'écrivez pour me dire que vous ne comprenez pas pourquoi je vous ai écrit. Hein, » enfin, cette personne lui a répondu en demandant des explications, en se demandant pourquoi elle lui racontait tout ça. Et alors là, il lui répond en lui disant « Il faut que vous sachiez que nous, surréalistes, alors en ce moment-là, il se nomme surréaliste, il n'en a rien, surréalistes, nous ne nous occupons pas des raisons, nous laissons ça à notre subconscient », lui répond-il. Bon. Alors avec certains, une véritable correspondance s'est instituée, avec bien sûr les piliers quand même qui étaient Dubuffet, Paulhan, André Lhote aussi, je crois. Enfin, il y en a un certain nombre. Hein. Puis les autres, c'était un petit peu au petit bonheur. D'ailleurs, il écrivait et puis il pouvait dans la lettre dire ben, vous l'enverrez après un tel, vous la ferez lire un tel. Ou il mettait deux lettres dedans disant celle-ci, vous pourrez. Bon, j'ai écrit hier à un tel, mais comme ma femme voulait mettre un mot puis qu'elle l'a pas encore fait, ben je vous l'envoie à vous. Enfin, ça n'a pas. C'était écrire, quoi.
Hein? Il s'est aperçu qu'on faisait lire, lire ses lettres.
Exactement.
Là, il y a eu pour lui un tournant.
Au départ, ça a été ça, quoi. Hein? Au fond, quelques-uns ont pris soin de lui. Ça a été Otto Fröndlich, Jeanne Kosnick-Kloss. Bon, et puis comme après, il a été dans des institutions, il a été 2 ans dans un centre sanitaire, social, à Clairvivre. Donc ceux qui l'avaient un peu soutenu au départ n'ont pas laissé tomber, lui ont écrit, et donc il leur a répondu. Ses protecteurs, quoi, les quelques-uns. Hein, qui...
Ah, c'est ça commence à ce moment-là.
Ça commence.
Parce que d'abord, il y a la peinture avec Fröndlich et puis sa femme qui s'intéresse, qui le protège. Là, ils organisent, je crois que vous dites ça,
une petite exposition.
Petite exposition. Et puis, à partir de l'échange qu'il y a de courrier entre les deux, voilà. Là, il y a quelque chose qui prend progressivement une autre dimension.
Voilà.
Et puis après, il trouve un éditeur avec Pollan.
Avec Pollan, oui. Et puis... Mais c'est vrai, un jour, en effet, vous avez raison de rappeler ça, un jour, il dit, un jour, je me suis rendu compte que certains faisaient lire mes lettres à d'autres, alors j'ai décidé d'écrire des lettres que tout le monde pourrait lire.
Au début, il était vexé, mais après,
voilà,
il a...
Voilà. Hein? Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces lettres soient très différentes en fonction du correspondant. Alors bien sûr avec Dubuffet, parce que Dubuffet lui répond beaucoup, ils ont de grandes conversations sur l'art justement, hein, sur ce qu'ils font réciproquement, quoi. C'est vraiment
sur la route.
Oui, entre autres,
ça peut être dans la route, mais ça peut lui rapporter.
Voilà, hein, mais Dubuffet avait tout à fait compris que Chessac était d'une autre trempe, hein, et il était un peu baba devant Chessac, Dubuffet. Hein, il savait bien que lui, il ne pouvait pas aller aussi loin. Il lui écrit en disant « toi, tu vas plus loin ouais, ». Hein, et il n'a pas essayé de l'enfermer dans l'art brut. C'est ça qu'on se moquait de l'art brut quand il lui écrivait. Mais il se faisait pas réciproquement de leurs trouvailles, de leurs inventions. Et voilà, il est toujours. Donc il avait quand même des autres, hein, pas un grand autre, mais des autres qui le reconnaissait, alors il fallait vraiment avec lui prendre des gants, lui faire savoir y faire, hein, parce qu'il change d'avis, alors ceci dit, ces lettres, une grande quantité ont disparu, ceux qui ont eu l'intelligence d'en garder, ils ont été bien contents après, évidemment, hein. Et alors il y a des petites choses amusantes, par exemple, dans le village où j'habitais à un moment, je crois que c'est à Sainte-Florence, ça, il écrivait au maire, et puis il écrivait, enfin, un certain nombre de gens, et le maire, les lettres, les mettait dans la corbeille à papier. Mais le secrétaire de mairie, Gabriel Baudonnet, lui, ça l'intéressait. Et donc, il récupérait les lettres dans la poubelle après. Hein? Voilà. Et donc, ces lettres-là ont été retrouvées grâce au secrétaire de mairie qui vidait les corbeilles à papier.
J'ai bien aimé, à la fin, vous avez une formulation, vous dites qu'au fond, c'est pas quelqu'un qui est dans la transgression. Ce que les autres atteignent par un effort de déconstruction, c'est juste... La barrière de la transgression est étrangère à Chessac. Voilà. Ce que les autres atteignent par un effort de déconstruction poétique... de la langue, par décomposition des volumes, Chessac, lui, y parvient en quelque sorte à l'inverse, par une réunification de bouts de réel, un assemblage d'éléments isolés, par une mise en jeu du corps, auprès de quoi les techniques, etc. Donc c'est vraiment pas un personnage hors norme, mais il n'est pas du tout dans la provocation, c'est contrairement à...
Je vais compléter un peu la question du...
Oui.
Je trouve que j'avais emporté ton livre à Barcelone, et j'ai commencé à lire après l'intervention d'Antonio Vicens sur Miró et après avoir vu la fondation Miró. Donc Vicens parle de Miró en disant qu'il a essayé de détruire la peinture, complètement la déconstruire. Et tu nous dis, c'est page 24, il remet en question, chez ça, le statut de l'art et de la culture. Ça rejoint un peu...
Sauf qu'il ne le fait pas volontairement, consciemment, mais voilà. Il n'a rien à faire. Mais ça remet en question sa manière, hein, de traiter tout cela, évidemment, remet en question tous les semblants de la langue, tous les codes sociaux, tous les codes artistiques, en effet. Hein. Alors... oui, j'avais repris ce terme de transgression parce que dans des commentaires, dans tous les catalogues d'exposition, il y a des textes de présentation qui sont souvent d'ailleurs de personnes très compétentes, très bien faites. Mais enfin, on trouve parfois l'idée de la transgression. Mais chez Sack, il ne s'agit pas de transgression. Pour transgresser, il faut avoir un cadre, il faut avoir une barrière à transgresser. Hein, et lui, il est au-delà de la transgression. Et Dubuffet dit des choses remarquables là-dessus, parce que Dubuffet avait perçu ça. Hein, et il lui écrit, par exemple, personne d'autre que toi ne va comme ça à l'extrême bout des choses, il lui écrit. Il écrit aussi, il a une lettre à Paulhan, Dubuffet, où il dit à Paulhan qu'il est complètement épaté, quoi. Il dit, il écrit à Chessac, il lui dit son admiration, il lui dit, toi, tu sais, il fait remarquer qu'il écrit comme le parler, qu'il n'y a pas de distinction chez Chessac entre le parler et l'écrit. Et que ça, personne ne peut le faire, et qu'il n'a jamais vu quelqu'un, comme Chessac, pouvoir transposer le parler dans l'écrit. C'est très intéressant.
Oui.
Hein, il dit ça aussi à Paulhan, puisque Paulhan et Dubuffet en parlent entre eux, et il dit à Paulhan que l'usage de la langue de Chessac, il enjambe la littérature, comme cette formule. Hein. Voilà, alors en effet, il a une lucidité, il le dit très bien chez ça. Moi, c'est pas déjà en place, là, moi, c'est à la fin, la phrase que tu as reprise, c'est oui, la spontanéité, moi, c'est le laisser aller, voilà. Hein, moi, c'est pas le je m'en foutisme, le laisser aller déjà en place. Alors évidemment, à l'époque, les surréalistes, les peintres essayaient vraiment. De transgresser, d'avoir un peu, d'avoir une spontanéité qui les porte un peu au-delà des normes, hein. Et donc leur effort c'était fait pour ça. Bon, alors que donc de déconstruire, hein, déconstruire la langue, les surréalistes, déconstruire les formes, etc. Chez Sack, il n'a rien à déconstruire, il a tout à construire. Et d'ailleurs, on voit bien comment c'est. Souvent, il cerne d'un trait noir. On voit que c'est des morceaux cernés de trait noir. Hein. Ou alors, quand c'est des collages, différents matériaux, mais. Il y en a quelques-uns à certaines périodes où le trait noir disparaît. C'est des périodes où il est très mal, très déprimé. Hein, quand ça.
Alors, vous pensiez auquel là, j'ai des.
Non, c'était pour montrer le cerne noir qui fait son style. On reconnaît, c'est du Chessac, parce que tout est. Ben, on doit avoir ça. Lui, il sait le dire, hein, que son je m'en foutisme, voilà, c'est pas celui des gens en place, des gens normés, qui s'efforcent de se donner, hein, d'être un peu plus libre, un peu plus indépendant que lui. C'est le laisser aller des éliminés, des inadmissibles.
C'est ça. Est-ce qu'au fond,
des éliminés, puisque à la fin de ton livre, il fait l'opposition entre les éliminés et lui qui est éliminé.
Voilà, je réponds, je ne suis pas illuminé. Hein, quand on me traite d'illuminé, je dis non, pas illuminé, éliminé.
C'est vraiment sa position.
Effectivement, mais il est une exception en même temps, quoi. Bien sûr.
Et je trouve que une phrase dans ton livre sur le comptage, que je trouve absolument super.
Eh bien, tu nous l'as dit, alors je ne sais pas.
Pour écrire un poème, il faut savoir compter depuis A jusqu'à Z. J'avais entendu un truc pareil. Mais pas trop le montrer pour faire une salade un peu en marmelade et pas trop la brasser. Le comptage, mais quand même la salade et la marmelade.
Très beau, hein.
Oui, et puis d'ailleurs il dit aussi pour me peindre, je m'y prends comme pour écrire, comme pour peindre, je m'y prends de la même manière. Voilà, sans savoir une seconde avant ce que je ferai.
Je me posais la question, parce que finalement, il y a quelque chose de. Effectivement, il peint comme il écrit, parce que ses peintures, c'est aussi des constructions.
Oui.
C'est pas seulement sur des supports.
Ah non,
on voit bien, il peint aussi avec tout ce qu'il trouve.
Oui.
Je crois qu'il y a des totems, ou s'il y a les deux faces sont peintes.
Des objets.
Et on a l'impression qu'il procède aussi dans la peinture par. comme pour l'écriture, par adjonction, par...
Oui, par juxtaposition, par collage, par contiguïté, par... Et puis la forme, tiens, ça lui fait penser à autre chose. Et, c'est métonymique.
C'est métonymique,
oui. Mais il a quand même un art de ça, parce que... donc il était évidemment assez... Mais peut-être qu'on pourrait continuer sur vos questions, puis ça viendra, hein, en même temps. Allez-y, parce que vous avez...
Justement, par rapport à ça, enfin, la question qu'on avait aussi, c'était, enfin, moi, en tout cas, je l'avais, c'était, parce que vous comparez souvent à Joyce, qui a trouvé effectivement dans l'écriture son symptôme, mais moi, la question que j'avais à la lecture du livre, c'est est-ce qu'on peut parler vraiment d'une solution pour Chessac? Parce que, effectivement, moi, ce qui m'a étonnée, c'est ce côté métonymique et le fait qu'il soit toujours en train d'inventer, de créer toujours. Et du coup, après, est-ce qu'on peut vraiment parler à ce moment-là d'une solution qu'il a trouvée? Ou, enfin, voilà, quelque chose de jamais vraiment fini, ou jamais vraiment... noué dans sa difficulté qu'il a à faire avec le symbolique, par exemple.
Oui, ben Joyce, il a toujours écrit aussi.
Oui, mais enfin, je veux dire, la façon dont Lacan l'expose, on sent bien effectivement qu'il y a un nouage qui s'est fait avec le raboutage de l'ego. Mais c'est le côté vraiment, métonymique, infini, comme vous disiez aussi, la correspondance infinie, le côté non limité. Enfin, on sent bien qu'il est tout le temps en inventivité, en créativité, au point où ça l'épuise, quoi. Où il laisse son corps, enfin son corps, enfin ça. Oui, tout à fait.
Alors, c'est...
Non, c'est pas, bien sûr, c'est des styles tout à fait différents. Par contre, au fond, Chessac a trouvé, même si c'est à l'infini, hein, c'est jamais un mode de nouage entre la langue, le corps, hein, et l'objet qui fait lien social, ça a quand même été une solution qui a tenu toute sa vie. Enfin, même si.
Mais qui donne quand même. Enfin, moi qui m'a donné un sentiment un peu de précarité quand même, enfin, quelque part.
Oui, alors de précarité dans la mesure où ça tient. Il a eu des bonnes fées, il a eu la chance de trouver une femme qui s'occupe, au fond, qui lui permette de vivre. Sans avoir besoin de travailler dans un milieu où il était libre. Alors il s'occupait de faire la cuisine, la lessive, le jardin, et puis voilà, hein, il avait sa petite vie, il écrivait, il allait chercher, il prenait, chercher ses matériaux et tout, mais donc il avait des conditions privilégiées, hein. C'était aussi privilégié parce que il était à l'abri de l'autre, du grand autre, hein, du grand autre pas toujours gentil, surtout dans le domaine de l'art, tous les gens connus, que ce soit politique, art et tout, ils en prennent plein les... Hein. Alors lui, il avait horreur de ce milieu, et c'était insupportable, il se plaint beaucoup, il dit que c'est comme... que quelquefois, il se sent comme étaient les prostituées quand leur patron leur piquait leur fric, enfin, un truc comme ça. Oui, donc l'écriture, c'est l'écriture quand même la solution. Et ce qu'il a créé au niveau plastique, c'est apprendre comme une écriture. Hein, c'est vraiment ça, la langue, hein, dans tout ça. C'est l'écriture qui fait tenir tout ça quand même. Hein, voilà, à condition, parce que l'écriture, c'est très bien, parce qu'il est en lien avec des tas de gens qu'il ne voit pas, hein, il peut dire tout ce qu'il veut, et on vient pas l'embêter, hein, il reste à l'abri de ça, voilà. Et par contre, il était...
Sinon, il aurait pu être à la servitude, à nous.
Ah bah oui, mis très à mal, hein, sûrement. Mais voilà, donc il a quand même traversé la vie comme ça. Et il avait des gens qui l'aimaient beaucoup. C'était quelqu'un d'assez attachant dans sa fragilité, sûrement. Hein. Par exemple, là où il a vécu, dans les trois communes où il a vécu, il était toujours très heureux de recevoir des gens qui voulaient venir le voir. Parce que ceux qui venaient le voir, c'est ceux qui avaient de la bienveillance. Hein, et alors là, bon, sa femme recevait les gens, mais lui, il leur montrait tout, était très... Il y a les grands photographes qui sont venus le photographier, Hermann, Douaneau, etc. Et il était très content de tout ça. Hein. C'est-à-dire que ceux qui, sur leur route, venaient exprès pour lui rendre visite, voir Gaston Chessac, voir ce qu'il fait, il les accueillait très très bien. Et d'ailleurs... Bon, j'ai utilisé cette formule de l'effet Chessac. Quand on lit les récits de ceux qui sont passés le voir et qu'on voit ce qu'ils en écrivent après, ils sont complètement stupéfaits hein, de ce qu'ils voient chez lui, tout ce qui est étalé, suspendu, les couleurs, etc. Voilà, qui sont rentrés dans son monde. Et il aimait, il était très content de ça. Il aimait beaucoup ça. Mais au moins, il était à l'abri, un peu à l'abri. Des critiques d'art, des autres peintres.
Il vendait pas, cette
production. Ben si, comme tous les peintres, c'était pas facile au début, il se plaignait tout le temps de ça. De toute façon, ça, c'est pas lui qui s'en occupait. De temps en temps, il détruisait les choses, il en donnait, il disait tout d'un coup non, qu'il n'avait pas envie d'aller à cette exposition, il en a assez de tous ces... Bon. Mais bien sûr que si, quand il est mort, il était déjà très connu en Italie, aux États-Unis, et il était déjà exposé. Mmh. Hein? Bon, après, bien sûr, ça c'est encore plus développé, mais si. Mmh. Mais c'est pas lui qui s'occupait de promouvoir ça. Il ne fallait pas de contact avec les marchands de tableaux, sauf Iris Claire, la galériste, qui avait créé un lien avec lui. Il l'aimait beaucoup. Il signait « Votre Gastounet » quand il écrivait à Iris Claire. Voilà. Alors oui, sûrement, vous avez tout à fait raison, c'est pas sûrement que c'était précaire, hein. Il était dans une grande souffrance aussi, tout est suspendu, sa vie était suspendue à l'écriture. Mais enfin, il a tenu sa vie comme ça. Il a trouvé une place, il a trouvé une fonction, il a trouvé une place d'exception, il a produit des choses extraordinaires au lieu de devenir un valet de ferme jouissant d'être un fumier, quoi.
Il y a eu un moment de choix, en fait.
Il y a eu un moment de choix.
Dans le passage de la vocation à la mission, il y a un moment, il dit... D'instinct, mais il ne faut pas que je. Oui. Dans un éclair, oui. Je vois qu'il y a. Je ne sais pas si on peut reprendre le terme de Lacan, une insondable décision de l'être, mais par rapport à la question de la jouissance, il y a un quelque chose où il.
Ben oui, il le dit clairement à un moment, qu'il aurait pu, mais qu'il a. Que sa vocation, il ne lui a pas obéi. Il dit elle est restée inobéissable et c'est sans doute mieux ainsi. Hein, c'est formidable de dire ça comme ça. Hein, et donc, il a plutôt suivi le côté d'une mission. Il délirait pas, hein, il n'avait pas des idées de mission. Mais enfin, mission dans le sens où il considérait qu'il était une exception, et puis qu'il était celui qui semait quand même des idées, qui voulait créer des « in partibus attire l'arigot », qui voulait subvertir tout, quoi, hein, faire que détruire le lien social habituel, créer d'autres formes...
Et moi, j'ai trouvé très intéressant parce que dans les années, sous Giscard d'Estaing, il y avait quand même ce grand mouvement contre tous les patois, toutes les langues. Mmh. Et je trouve qu'il a une formule de. Enfin, je ne sais pas si j'ai un truc, mais. On voit qu'il est quand même un homme de son siècle. Parce qu'à la fois, il s'extrait de tout et à la fois, il a une défense des dialectes qui est quand même assez remarquable. Et parce que je regardais la date à laquelle il l'a écrit. Et ça semble être à l'époque où on partait en guerre, c'est page 77 dans le livre du public, alors que sous l'impulsion de nos ministres de l'éducation nationale, les patois tendent de plus en plus à disparaître, ça devient une nécessité de donner aux Français la saveur des dialectes, les paysans en particulier sont là pour la vie
pour
de
tout.
Et quand je retrouve le livre, ça semble être de cette époque, où on est parti... Dans les années 70, 80, quand même la guerre contre tout ce qui était. C'est quand même. Et il est en dehors et à la fois il est dans son siècle.
Oui, enfin c'est peut-être un peu le hasard là, enfin une contingence, parce que ce rapport à la langue, il l'a profondément. C'était ancré. Hein.
Dans le livre, il y a un passage extraordinaire quand même.
Quand il parle de sa mère.
Quand il parle de sa mère.
Oui.
Je vais lire le passage parce que je trouve que ça condense vraiment la,
Quelle page?
Alors, c'est page 74.
Oui.
Je vais vous dire quelque chose. Alors, il s'adresse à Dubuffet, peut-être. Bon. Je vais vous dire quelque chose que je ne pense pas avoir déjà dit dans d'autres lettres. Lorsque j'étais gosse et que ma mère était très en colère après moi, elle s'asseyait, faisait le geste de s'arracher les cheveux et elle parlait un bon moment de son malheur d'avoir des enfants aussi terribles, et ce qu'elle disait ressemblait à de la poésie, ce qui me la faisait écouter avec beaucoup d'intérêt. Et on retrouve ça dans tout ce qui est son rapport à la langue, à la, la sonorité, le son,
la poésie. Il a une théorie de la langue en un mot, quoi. Pour lui, la langue policée, la langue normée, la langue de la grammaire, la langue de la syntaxe, la langue la même pour tous, qu'on respecte, c'est pas la sienne. Hein. Il dit pourquoi peut-on pas dire merde et qu'il faut dire matière fécale, alors que pourtant berne et cerne qui ressemblent à merde sont considérés comme corrects. Enfin, il dit bien que ce qui l'intéresse, c'est le son, c'est les mots qui sonnent bien. Hein, il est toujours resté fixé à la première langue, qui est la langue en un mot, la langue de jouissance, quoi, le son. Hein. Le son, quand sa mère se plaint quand même de ses enfants, s'arrache les cheveux, il est plein d'admiration parce qu'il entend comme de la poésie. C'est toujours ça qui prend le pas. Ah, il dit d'ailleurs, quand il rencontre d'autres artistes dans des expositions, il a horreur de ça, de tous ces jargons savants. Mais par contre, les gens qui parlent mal, c'est comme une musique et que voilà, il aime.
Ça fait disparaître l'énonciation, au fond. La c'est-à-dire, au fond, le contenu, ce que l'autre dit.
Oui, ça fait disparaître tout énoncé, oui, il n'y a pas de sens. Il n'y a que le corps, quoi, il n'y a que la modulation des sons.
Et qu'est-ce que vous pensez de son rapport à la terre, à son terroir? Parce que cette jouissance qu'il a, que les gens viennent le voir là où il est, chez lui, sur sa terre. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou pas?
Non, il n'est pas sur sa terre, il est dans son atelier, les gens viennent le voir dans sa maison.
C'est son lieu de vie, cette région-là, où sa femme est institutrice.
Oui, il s'est trouvé là, lui. Il était d'origine d'Avalon, tout ça. Bon, il l'a suivi là. Et puis, une fois qu'il était là, il n'aimait pas déménager. Il a fallu qu'il change trois fois parce qu'elle changeait d'école.
C'est ça, il l'a suivi, oui, c'est ça.
Bah oui, bien sûr. Parce que lui, ce qui comptait, c'était, de toute façon, il ne pouvait pas vivre. Il n'y avait pas de raison qu'il ne la suive pas. Et puis, il reconstituait son monde. C'était pas une question de terroir. Par contre, sa terre. On dit qu'il voulait aller vivre aux îles Aléoutiennes. Il avait dû trouver ce mot très beau quelque part dans le dictionnaire. Et voilà. Mais oui, alors il avait quand même, ceci dit, il dit qu'il aimait bien faire couleur locale. Couleur locale, parce qu'il faut dire qu'il était quand même le problème du corps chez Sack, c'était quand même un gros problème. Et donc ce corps, il l'habillait avec les tenues. Alors il parle de la soutenique, de l'homme d'écurie, mais au fond c'était il parle de harnachement même. C'était les attributs de vêtements, de tout ce qui l'attire quand même du côté des palefreniers, des chevaux, etc. Hein, mais il dit qu'il s'est fait aussi la blouse du paysan Bocquin, mais tout ça, dit-il, c'est parce que ça cache mon débraillé. C'est des habillages du corps. Hein, c'est. Voilà. Même que les ceintures de flanelle, etc. Et puis, s'il aime bien tout ça, c'est parce que il se dit. Il se dit paysan, mais paysan dans le sens de comme il dit, les langues, le sabir ou la langue, pas dégrossi, pas. C'est un peu la même chose que dans tous les autres chants. Il n'est pas paysan, rien d'un paysan. Hein, mais sa peinture, il l'appelle la peinture rustique moderne, par exemple. Hein, alors, Voilà, il est pour le rustique. Hein, mais c'est purement, c'est pas attaché à quelque chose de réellement de réel. Hein. Et il n'était pas du tout attaché à cette terre plutôt qu'à une autre. Il était attaché à sa tranquillité, à avoir son voilà, hein, à pas changer. Et les gens qui venaient le voir, c'était pour voir. L'artiste, pour voir ses productions, pour voir... Alors j'aimais bien leur montrer son oseille dans le jardin, mais bon, c'était quand même une toute petite échelle. Mmh.
Dieu. Bah, alors, moi je voulais revenir sur la dimension du corps, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant.
Oui.
Et on s'est dit que c'était assez étonnant comment ils pouvaient par moments aller prélever... chez l'un, chez l'autre, comme ça, par exemple le pantalon de velours de son père. Mmh. Alors il y a des moments comme ça où il va vraiment prélever quelque chose chez l'autre, et puis d'autres moments où il cherche le pas comme tout le monde, quand il dit par exemple je préfère passer entre les mains des apprentis coiffeurs qui au moins font des coupes de cheveux inédites. Mmh. Donc à la fois il y a des choses...
Oui, oui. Alors, c'est autre chose. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Bon, il parle du pantalon de son père, hein, ouais, qui ouais. faisait des plis, puis à mesure qu'il a grandi, parce que son père était parti, avait quitté la famille. Bon. Il a des formules pour les vêtements aussi qui sont... On voit bien que c'est des pures formules langagières. C'est pas à prendre souvent... comme des choses, par exemple, il dit, il a des espèces de cimentèmes comme ça, habillés à la hussarde en velours côtelé. Voilà. Alors, c'est des formules qui met partout comme ça. À la hussarde en velours côtelé. Il a dû prélever ça à un moment, et donc c'est plaqué comme ça.
C'est la sonorité qui lui plaît.
La formule, il a des espèces de formules néologiques qui vont toujours ensemble comme ça, à la hussarde en velours côtelé, où il a dû, à la hussarde, c'est une façon qu'il a dû trouver, le velours côtelé c'était le pantalon de son père, alors il a une espèce de formule comme ça qui revient, à la hussarde en velours côtelé. Bon, alors il y a les vêtements, les enveloppes du corps, etc. Mais alors au niveau du corps, vous avez raison, il a des considérations que vous soulevez un peu rigolotes, un peu drôles. Il aime se faire couper les cheveux, pas par des gens qui les coupent bien. Mais ça, c'est pour tout. C'est-à-dire, il faut que ça soit pas normal, il faut que ce soit rustique, il faut que ce soit... il faut que ce soit mal fait. Il aime les choses mal faites. Hein, voilà. Et il avait des discussions avec la galériste Iris Claire qui lui demandait d'avoir un petit peu plus de soin pour ce qu'il faisait, mais il protestait, il dit moi j'aime ce que soit chiffonné, voilà, il faut des fourbis comme ça, c'est trop bien, il aime, il protestait, voilà, contre les choses trop bien faites. Alors voilà, les apprentis coiffeurs, au moins ils ne vous taillent pas les cheveux comme tout le monde. Hein. Et puis il avait ses petites manies quand même, hein, pour sa moustache, il se décolorait aussi. Il avait les cheveux, alors couleur de vache, couleur... Hein. On voit bien qu'il y a des tas de traits qu'il ramène toujours à ce goût particulier.
Rigueur logique, on dirait rigueur logique.
Eh ben, en tout cas, c'est pas de l'ordre du raisonnement, c'est pas de l'ordre, mais enfin, c'est un trait qu'on retrouve, disons. Hein, disons que c'est toute une série de petits restes d'identification à ce qui est trait à l'écurie, quoi. Hein, aux chevaux et aux fumiers. Pour les cheveux, pour les vêtements, pour... Alors oui, c'est sûr qu'il y a une logique, hein. C'est toujours...
C'est la candide,
oui, oui.
Dans les conférences...
Oui, oui, oui.
Je
oui,
suis psychotique au sens de rigueur logique.
Voilà, alors peut-être que c'est plutôt pour ceux qui ont quand même des idées, qui construisent un délire, qui construisent...
Tout ce qui est hors norme.
Voilà, oui. Oui, c'est ça.
Il y a une logique.
Oui, oui. Oui, dans ce sens-là, oui. C'est juste. Oui.
J'en avais deux questions qui me tenaient à cœur. Il y en a une. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas Gaston Chessac, donc je l'ai découvert à travers ce livre. Et au début, quand j'ai commencé à lire effectivement ses écrits, je me suis dit, mais mince, c'est bourré de coquilles. C'est bourré de coquilles. Et en fait, effectivement, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, etc. Enfin, ouais, bon, j'ai compris après dans la lecture qu'effectivement, c'était le style de Chessac. Mais voilà, mais juste, j'avais une question parce que j'avais été voir une vidéo sur YouTube qui parlait de Gaston Chessac. Et c'était un musée ou je ne sais plus quoi, enfin bref, et la conservatrice du musée disait qu'il en faisait exprès pour emmerder, entre guillemets, son interlocuteur. Donc la question c'est, est-ce qu'effectivement il en faisait exprès ou pas quoi, enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose du côté de son refus du langage normé, comme vous disiez, mais en même temps, le côté emmerder de l'autre, ça fait partie aussi du personnage, quand on le lit un peu quelque part, enfin... Donc
on lui prête beaucoup d'intention. Ouais. Moi, je crois que justement, c'est très difficile de concevoir qu'il n'en a pas vraiment, mais justement qu'il n'est pas entré dans le rang et qu'il s'en fout. Alors, des fois, il écrit bien, des fois, il n'écrit pas bien. Mais d'ailleurs, il en parle dans le livre de son rapport au fond, la tyrannie de la grammaire. Tout ça, c'est pas son truc. Et donc, c'est fantaisiste. Quelquefois, il y a des majuscules, quelquefois, il n'y en a pas. La ponctuation, la dispo. C'est vrai que dans les commentaires qui sont faits de lui, moi, je trouve qu'il y a souvent des interprétations. Quoi. On met du sens, alors on lui prête des choses. Quand on lit vraiment soigneusement tout ce qu'il écrit, bah, il est au-delà de ça, moi, je trouve.
C'est pas là.
Il est content.
C'est pas la transgression, il est bien au-delà de ça. C'est pas la transgression, il est au-delà de ça.
Oui, alors qui s'en amuse, qui s'en serve un petit peu, Bon, mais c'est pas très calculé, Il sait pas, il écrit selon l'état dans lequel il écrit plus ou moins bien, l'écriture est plus ou moins déformée. Et puis du coup, il récupère ça, il en parle, que la grammaire, lui, c'est la langue en un mot. À partir du moment où lui, il est dans la langue en un mot, eh bien, tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Pourquoi il n'a pas d'un côté une langue qui pourrait très bien, qui pourrait manipuler correctement dans les normes, et puis pour s'amuser ou pour provoquer après mal écrire, c'est pas aussi évident que ça.
Ça fait bien.
Non, mais ça, après, c'est pour manger du chez ça.
On pourrait parler pendant 10 heures. Il est passionnant.
Mais merci beaucoup, en tout cas. De ne pas interpréter, de au pied de la lettre, parce que nous, on a un peu cette discipline-là, donc il nous apprend beaucoup, parce qu'il...
Ce serait très mauvais de manger du chessac. Parce que maintenant, les grands chefs, ils partent des épluchures.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il aurait pu monter dans ses bleds des...
Quand on dit l'avenir de l'art pictural...
L'avenir de l'art est dans les épluchures, oui.
Quand on voit l'art actuellement, il y a quelque chose de ça.
Du déchet. Il nous apprend beaucoup, ce passionnant. Moi, je trouve que c'est un maître pour nous.